Et je vous encourage aussi à prier pour ce deuxième culte. Si vous êtes volontaire pour y participer aussi, on ne serait pas contre, parce qu'il y a moins de monde. Mais aussi, il faut prier qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent au Seigneur, que ces chaises vides ne restent pas vides, et que Dieu sauve beaucoup de gens dans cette ville. Il y a tant de besoins et tant de perditions. Ce matin, donc, le message est tiré d'un verset de l'Épître aux Éphésiens. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous regardiez par vous-même en Éphésiens chapitre 2 et verset 12. C'est important d'avoir sa Bible à l'église, de suivre ce que le prédicateur dit dans la parole de Dieu pour ne pas juste accepter sans discernement, mais il faut avoir toujours son discernement et sa vigilance. Éphésiens, chapitre 2, verset 12. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir, c'est la Sainte Cène. Et ici, ce verset dit « Souvenez-vous que vous étiez sans Christ. » Qu'est-ce que c'est d'être sans Christ? Mais c'est quelque chose de terrible, parce que sans Christ, on ne peut pas soutenir le jour du jugement dernier. Lorsqu'on meurt, on attend ce jour du jugement où on est présenté devant le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement pour toute âme. Et si on vient à Dieu, devant le Dieu trois fois saint, tel qu'on est, sans rien, en disant « voilà, je n'ai pas tellement pensé à toi, je n'ai pas tellement obéi à ta loi, je ne sais même pas exactement ce qu'elle dit d'ailleurs », j'ai eu une vie plutôt rebelle, plutôt égoïste. Comment croyez-vous que Dieu va nous traiter avec ça? Est-ce qu'on peut espérer être sauvé en arrivant devant Dieu avec tout ça? Avec nos offenses, nos péchés, nos rébellions? C'est impossible de passer ce jour du jugement et de s'en sortir par nous-mêmes. Bien sûr, devant les hommes, on peut se justifier. Aux autres, on peut leur dire, mais vous savez, je ne suis pas si mauvais que ça. On peut cacher même les choses. On peut même s'illusionner, se dire, mais je suis quelqu'un de très valable et j'espère que Dieu va le reconnaître quand je viendrai devant lui et qu'il me fera entrer dans ses palais d'ivoire, dans son royaume céleste, parce que je l'ai bien mérité. Mais penser ça, c'est vraiment être insensé. Quand je vais comparaître devant Dieu, si je n'ai pas Christ, je vais arriver avec mes péchés, mes offenses, et Dieu va dire, voilà toutes les offenses contre ma loi. Voilà toutes les fois où tu as transgressé ta propre conscience. Ta conscience te disait, non, ne le fais pas, et tu l'as fait quand même. Voilà toutes les fois où avec ta langue, tu as fait du mal à quelqu'un. Toutes les fois où en pensée, tu as ruminé le mal, l'amertume, la vengeance, la haine. Voilà toutes les fois où par tes jambes et tes bras, tu as désobéi à Dieu et tu as fait du mal aux autres, aux créatures humaines et parfois animales. Dieu ne pourra que nous condamner. Je suis frappé par la mauvaise foi des coupables. Il y a des personnes, on les arrête sur le fait, on a toutes les preuves et quand ils arrivent, ils disent « mais c'est pas moi ». Je ne sais pas ce qui s'est passé, la personne était là, pouf, elle est morte. Ah oui, mais elle a été étranglée, on l'a battue. Ah ben je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas. Il y a quelque chose dans la conscience et le cerveau humain aussi hein, qui fuit la culpabilité, hein, on fuit la réalité. Et on essaye d'oublier qu'on est coupable. Mais la Bible est là pour nous rappeler que sans Christ, on est aussi sans espérance. Parce que le jour du jugement, on ne va pas en réchapper. Toute œuvre sera révélée, dit la Bible. On est nu et découvert aux yeux de celui à qui on devra rendre compte. Sans Christ, souvenez-vous, mais avec Christ, nous avons un sauveur, nous avons un défenseur, nous avons un sacrifice pour nos péchés. Lorsque Christ a donné sa vie, parce qu'il est surtout venu donner sa vie. On parle beaucoup, on dit, voilà, Jésus c'était un modèle, un exemple, il a aimé les gens. Mais si Jésus était venu simplement aimer les gens et les guérir, il serait resté sur la terre. Parce qu'il aurait continué à guérir et aimer les gens. Et il y aurait eu des queues innombrables sûrement hein, pour aller le voir, le rencontrer, être guéri. Et il aurait peut-être guéri des foules comme ça, à distance. Mais pourquoi est-ce qu'il est reparti? Pourquoi il est ressuscité et il est monté au ciel? C'est parce qu'il n'est pas venu juste pour guérir les gens ou faire du bien. Il est venu pour mourir, ressusciter et présenter son sacrifice au ciel. Parce que dans le ciel, là où aura lieu le jugement, la justice de Dieu attend un sacrifice. Savez-vous quelle fête est célébrée ce week-end, ce samedi, hier? Yom Kippour, le jour du grand pardon chez le peuple juif. C'est un jour qui est dans la Bible. Une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint qui symbolise sur terre le ciel. Et là, la présence de Dieu. Il rentrait derrière le voile, il était lui-même aspergé de sang pour ses péchés et il prenait du sang dans une coupe avec une branche d'hysope et il aspergeait le coffre de l'arche de l'Alliance. Et ce sang d'agneau innocent couvrait les péchés du peuple pendant un an. Les péchés étaient couverts, pas ôtés mais couverts. Et dans le ciel, il y a un jugement, il y a une attente, il y a une arche aussi, si on peut dire, hein, la présence de Dieu. Et Christ est rentré au-delà du voile, il est rentré dans le ciel même, dit la Bible. Et là, il a présenté son propre sacrifice pour les péchés du monde entier. La Bible dit que Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu a voulu être réconcilié avec nous les hommes. Je pense que très souvent, on est un peu fâché avec Dieu, parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Et surtout, ceux qui ne connaissent pas Dieu, disent « Oui, mais pourquoi un tel est mort dans ma famille et pourquoi moi j'ai que des problèmes et je suis malade ou j'ai ceci, j'ai cela ?» Et les gens sont fâchés avec Dieu, ils pensent que Dieu ne les aime pas, les rejette, ils ne le connaissent pas. Alors que toute la Bible est là pour témoigner que Dieu nous aime, Dieu nous cherche. Mais il nous laisse libres. Il ne va jamais s'imposer à nous, nous forcer. Et il veut se réconcilier avec nous. Il dit, je ne veux pas qu'on reste fâché. Parce que celui qui va payer là, hein, c'est nous. Si on arrive fâché devant Dieu, hein, c'est fini. Il faut arriver réconcilié avec Dieu. Comment être réconcilié avec Dieu? C'est par le sang de la croix que c'est possible. C'est ce que dit ce verset de l'Épître aux Colossiens. Le sang de la croix, par son sang, versé par sa mort, Christ fait la paix entre le ciel et la terre. Il apaise la colère de la justice de Dieu. Parce que Dieu doit juger le mal. C'est curieux, là aussi on est un peu... contradictoire. Hein. On a horreur de l'injustice. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime l'injustice sur la terre? Il y a quelqu'un? Voilà. Hein, si je faisais un sondage dans la rue ou dans les foules, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'injustice? Personne. On aime ce qui est juste. Maintenant, si Dieu vient dans ma vie et dit « Maintenant, je vais rétablir la justice dans ta vie. » Oula, attends. Laisse-moi tranquille. Hein, on est contradictoire dans notre façon de penser. On veut la justice sur la terre, mais pas dans notre cœur ni dans notre vie. Pourtant, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut commencer par nous. Tu veux la justice? Ben, commence par toi-même. C'est Jésus qui a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Avant de faire des leçons à tout le monde, avant de dire, oh, il faudrait ci, il faudrait ça, la justice, l'injustice, est-ce que moi, je me suis déjà repenti Est-ce que moi, un jour, j'ai fait le point devant Dieu en disant, oui, je reconnais que je ne suis pas digne de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis coupable devant la loi de Dieu. Pas juste coupable comme ça, mais j'ai transgressé à maintes reprises ce que Dieu me demandait et ce que ma conscience me disait. Mais Christ, par son sang sur la croix, permet la réconciliation. Ça veut dire que si je viens à Dieu au nom de Jésus-Christ, il peut m'accepter et me pardonner. Jésus est notre avocat, dit la Bible. C'est dans la première épître de Jean, il est écrit au chapitre 2, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est lui-même une victime expiatoire, c'est-à-dire il s'est donné pour expier nos fautes, pour payer nos fautes, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ est une victime expiatoire, il est ce sacrifice et il est notre avocat. On n'aime pas trop les avocats hein, parce qu'on considère qu'ils sont plus ou moins corrompus, mais je peux vous dire que quand vous avez un problème juridique, vous êtes content d'avoir un avocat, mais vous êtes vraiment content. Parce que vous avez quelqu'un qui connaît les arcanes de la justice, qui connaît les textes, normalement, et qui va pouvoir vous expliquer comment ça va se passer, qui va pouvoir définir avec vous une ligne de défense, et qui va croire en vous. Normalement, l'avocat, il croit en vous. Les juges, ou la partie adverse, si vous êtes attaqué par une partie adverse, vous regarde et vous désigne comme le coupable, le mauvais. Mais l'avocat, lui, il vous défend. Certains avocats, même, ils aiment hein, leurs clients. Il y a un lien qui se tisse. Hein. Mais l'avocat, il est avec vous. Et c'est ce que Christ veut être pour chacun de nous. Il veut être notre avocat. Il y a la justice de Dieu hein, qui est prête à tomber sur nous. Dès qu'on meurt, c'est fini. Mais Christ a pris cette justice hein, qui tombe là, il a pris sur lui, sur la croix. Cette hache de la justice de Dieu, elle est tombée sur Christ. Il a accepté lui-même. C'est un avocat unique au monde. Hein. Je ne connais pas d'avocat qui s'accuse lui-même ou qui fait la peine de prison pour son client. Hein. Il va se battre comme il peut, il va tout faire pour plaider la cause, mais quand c'est le moment d'être condamné, c'est le client qui va en prison, c'est pas lui. S'il a perdu son procès, tant pis pour lui. Mais Christ ne perd pas son procès si on le prend pour avocat. Parce qu'il a donné sa vie, il a payé ma dette. Il a fait déjà ma peine de prison à ma place. Il a déjà subi la peine de mort plus que la peine de prison à ma place. Sans Christ, je n'ai aucun défenseur. Je suis nu devant le juge des morts et des vivants. Avec Christ, j'ai un avocat. Un défenseur, un sacrifice. Je peux dire, moi je suis pécheur, moi je n'ai rien fait qui mérite d'aller au ciel. Mais Christ est mon sauveur, mon avocat. Et avec Christ, je rentre au ciel. Pour parler un peu plus près de la jeunesse, quand j'étais jeune et dans ma folie sans Dieu, j'allais souvent dans des soirées ou dans des boîtes de nuit. Et souvent, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait rentrer. Hein? Et c'était, on attendait, oh, qui va me faire rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Si j'arrivais moi-même, on disait, mais on ne te connaît pas, toi. Va-t'en. Mais si j'avais l'ami de l'ami du collègue qui connaissait celui qui organisait la fête, alors là, je pouvais rentrer. Christ, il est notre médiateur. Il nous fait rentrer au ciel. Tout seul, je ne peux pas rentrer. Mais avec Christ, c'est possible. Lorsque nous étions encore sans force, dit la Bible, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Qui sont ces impies? Est-ce que c'est les gens qui tuent, les gens qui volent? C'est nous tous. Nous sommes des impies. Des impies, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui n'écoutent pas Dieu. On peut avoir même une religion et être comme ça, hein, et être impie. On peut avoir une bonne religion, on fait la tradition, on obéit à tous les préceptes, mais on ne connaît pas Dieu, on ne l'aime pas spécialement et on ne le cherche pas. À peine mourrait-on pour injuste, Quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien, mais lui, Christ, il a donné sa vie pour nous, pour des pécheurs. Il est mort pour des impies que nous sommes. On doit se souvenir de cela, de son sacrifice. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, que Christ a aboli le péché par son sacrifice. Dans le Yom Kippour, le peuple juif essaye d'apporter des sacrifices à Yahvé pour être pardonné de tous leurs péchés. Comme il n'y a plus de temple à Jérusalem, ils ne peuvent plus apporter des animaux, il n'y a plus de sang versé, et pourtant la loi le dit bien dans le Lévitique, hein, il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de sang versé. Mais ils ont, n'ayant plus de temple, ils ont tourné ça, ils ont dit, mais on peut se sacrifier en jeûnant et en priant. Alors ils prient et ils jeûnent. Et ils espèrent de tout cœur être pardonnés. Et vraiment, il y a une soif de pardon. Ils disent, j'espère que Dieu va pardonner toutes mes fautes. Parfois, ce n'est pas très sincère. Hein. C'est-à-dire, je vis comme il me plaît toute l'année. Et ça, ce n'est pas que les Juifs, hein, c'est tout le monde. Hein. Je vis comme il me plaît toute l'année. Et puis, au moment du pardon, oh Seigneur, je t'aime, je crois en toi, viens me pardonner. Ça, ce n'est pas tellement sincère. Ce n'est pas la repentance, ça. Hein. La repentance, c'est quand vous dites, je reconnais que le mal que j'ai fait est mal, que le mal que j'ai fait est une offense envers Dieu, que le mal est une offense envers les autres humains, et je ne veux plus refaire ce mal. Ça, c'est la repentance. Mais juste de pleurnicher devant Dieu en disant, oh, veuille me pardonner pour l'année prochaine, et puis dès que c'est fini, dès qu'on a le papier du pardon, on recommence, ça, ce n'est pas la repentance que Dieu appelle. C'est de l'hypocrisie pure. Mais Christ, dit la Bible, est venu, Christ le Messie, il a aboli le péché. Ce n'est pas qu'il le couvre, ce n'est pas qu'il dit, bon, on va le mettre de côté en attendant, il l'enlève, il le détruit. Celui qui croit en Jésus-Christ est pardonné de tous ses péchés. Il ne peut plus être condamné. Ce péché est enterré et détruit une fois pour toutes, c'est aboli. Le mot aboli, hein, je pense que c'est clair, c'est... On ne peut pas faire plus fort. Est-ce qu'on peut faire plus fort qu'aboli, hein ? Il y a détruit peut-être, mais on n'en parle plus, c'est terminé. On ne revient plus dessus. Dieu ne reviendra pas sur vos péchés, sur mes péchés, si nous avons cru en Jésus-Christ. C'est réglé une fois pour toutes. Combien c'est bon ça, quand c'est réglé une fois pour toutes ? Est-ce que vous avez eu des ennuis avec l'administration déjà ? Lorsque l'administration, hein, vous poursuit, soit les impôts, soit... C'est pesant, hein? Parce que vous dites, quand est-ce que je vais m'en sortir, hein? Et des fois, l'administration vous poursuit indûment, hein? Il y a une erreur quelque part, et c'est vous qui subissez l'erreur. Des fois, c'est de votre faute, peu importe. Mais le jour où c'est réglé, le jour où vous avez quelqu'un au téléphone qui vous dit, ça y est, c'est totalement réglé, vous êtes totalement vierge de tout problème, nous n'avons plus rien à voir avec vous. C'est... Quel soulagement! Ils ne vont plus me poursuivre, ils vont plus, je ne vais pas avoir des huissiers ou je ne sais pas quoi derrière moi. Un soulagement. Quel soulagement encore plus merveilleux lorsqu'on sait que Dieu ne peut plus me condamner parce que Christ est mon sauveur. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Souvenez-vous de ça. On ne peut plus être condamné. Le verset d'Éphésiens disait, « Sans Christ, vous étiez sans espérance et sans Dieu. » On dit hein, que l'espoir fait vivre, et c'est vrai, l'espoir fait vivre. Beaucoup de gens vivent avec de l'espoir, mais là, il ne parle pas d'espoir, il parle d'espérance. La Bible dit que l'espérance, c'est quelque chose qu'on possède. On possède l'espérance. C'est une certitude, l'espérance chrétienne. Ce n'est pas de l'espoir en disant « j'espère que je vais m'en sortir ». Non. L'espérance, c'est « je sais que je suis sauvé parce que Christ est mon sauveur ». Sans Christ, on ne peut pas avoir cette espérance. Ce n'est pas possible. Parce que notre péché n'est pas payé. Il reste là, en suspens. Sans Christ, j'étais irrémédiablement esclave du mal. Je regardais à nouveau ce passage de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Je vais vous le lire. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» C'est-à-dire n'iront pas au paradis n'iront pas au ciel, hein, les injustes. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, c'est-à-dire les gens qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ceux qui vénèrent d'autres choses que Dieu, que le Dieu de la Bible, Dieu vivant, le Dieu éternel et esprit. Ni les adultères, c'est-à-dire ceux qui trompent leur mari ou leur femme avec un autre mari ou une autre femme. Ni les efféminés, c'est-à-dire ceux qui refusent leur sexualité, qui veulent être une femme alors qu'ils sont un homme. Ni les homosexuels, ceux qui pratiquent la sexualité avec un autre homme ou une femme avec une autre femme. Ni les voleurs, donc ça, c'est pas besoin de définir, hein. Ni les cupides, ceux qui aiment l'argent, qui sont prêts à tout pour l'argent, qui ont fait de l'argent un dieu. Ni les ivrognes, ceux qui sont esclaves de l'alcool ou d'une drogue. Ni les outrageux, ceux qui insultent, ceux qui ont un tempérament d'insultes, de colère et qui insultent les autres, hein, qui méprisent tout le monde. Ni les ravisseurs, c'est-à-dire les extorqueurs, les escrocs, mais aussi ceux qui volent les gens. Hein. Les ravisseurs, ce sont ceux qui prennent des otages, par exemple. N'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, vous les Corinthiens, là. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, pardonnés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je me suis dit, pourquoi il cite ces péchés-là? Parce que des péchés, il y en a des millions, hein, différents. Il a fait une liste, là, tout à fait étrange. Dedans, vous avez des homosexuels, vous avez des adultères, bon, donc là c'est le côté sexuel, mais vous avez des voleurs, vous avez des gens qui aiment l'argent, vous avez des outrageux, des gens qui insultent les autres. Entre un voleur et quelqu'un qui insulte, on dit, mais pourquoi il a mis ces choses-là? Et en réfléchissant là-dessus, il y a un moment, Dieu m'a donné une idée, c'est que ce sont des choses qui sont très ancrées dans la personne. Quelqu'un qui est dans la débauche, il est pris par la débauche. Quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, il est pris par son idolâtrie. Quelqu'un qui est dans l'homosexualité, il est pris par l'homosexualité. Quelqu'un qui est un voleur, c'est dur de s'arrêter de voler. Quelqu'un qui aime l'argent, alors là, n'en parlons pas. Quelqu'un qui est ivrogne, combien c'est dur d'arrêter l'alcool quand on est alcoolique. Ce sont des choses qui nous prennent. Et le Saint-Esprit dit... C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été pardonnés. Christ peut nous délivrer des péchés les plus prenants, des esclavages les plus durs. Il y a des gens ici, hein, qui étaient dans ces péchés, on peut dire comme les Corinthiens, hein, parmi nous. Et Christ nous a délivrés. Sans Christ, ce n'est pas possible. Mais avec Christ, tout est possible. Et c'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous lave des péchés les plus forts. Ceux qui prennent notre vie, on dit, mais Seigneur, j'arriverai jamais à arrêter l'alcool. Mais commencez à venir au Seigneur. Dire, Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. Ça peut même être pour la cigarette. Ça peut être pour l'immoralité sexuelle. Quel que soit le péché, l'idolâtrie que vous avez, le Seigneur peut vous délivrer. Mais il faut se souvenir que sans Christ, on n'a aucune espérance. Sans Christ, ce n'est pas possible. Ce n'est pas par nos efforts humains. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ. J'ai pensé à l'histoire d'Israël. Israël a été pendant 400 ans en esclavage dans un pays étranger, l'Égypte. Et là, ils ont été maltraités. Donc un esclave n'avait quasiment aucun droit. Tout ce qu'on lui demandait, c'est de travailler gratuitement. On les nourrissait bien. Mais c'est tout. Et puis plus le temps a passé, plus les pharaons sont devenus durs et l'esclavage est devenu de plus en plus terrible. Au bout d'un moment, on leur a interdit d'avoir des enfants mâles. Il y avait des avorteuses, hein, qui venaient voler les bébés mâles et les tuer. On leur demandait de faire le double du travail. Il fallait qu'ils mélangent, hein, l'argile et la paille, qu'ils fassent cuire, et on leur demandait de faire le double dans le même temps. Ils n'y arrivaient pas, alors on les fouettait à mort. C'était une vie horrible. Et Christ, le Seigneur, les a délivrés à travers Moïse. Ils sont sortis d'un seul coup du pays. Ils sont tous sortis. Même les Égyptiens leur ont donné des choses pour les aider. Ils sont arrivés devant la mer Rouge qui les bloquait. Dieu a ouvert la mer Rouge et les voilà, ils sont dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils font un veau d'or. Au lieu de dire « Le Dieu vivant m'a délivré », ils font un veau avec tout l'or qu'ils avaient ramassé d'Égypte et ils l'adorent. Ils disent « C'est toi qui nous as délivrés ». Mais c'est incompréhensible ce comportement. Et après un jugement terrible de Dieu sur ce peuple, ils continuent leur pèlerinage dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils font au bout de quelque temps? Ils commencent à se plaindre. « Oh mais on en a assez d'être dans le désert. En Égypte, on avait des oignons, on avait du poisson, on mangeait bien. » Oui, c'est possible d'ailleurs, parce qu'on nourrissait bien les esclaves. Mais tu as oublié qu'entre les repas, qu'est-ce qui se passait? Tu travaillais 15 heures par jour, tu avais des gens qui te fouettaient, qui te laissaient mourir, y avait des cadavres autour de toi, les enfants n'étaient pas libres. Tu as oublié ou on a une mémoire sélective, Et des fois, on oublie ce que le Seigneur a fait pour nous, de quoi il nous a délivrés. C'est pour ça qu'il y a la Sainte Cène. C'est pour se souvenir. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens en France et dans le monde qui ne vivent plus pour le Seigneur. Ils ont laissé tomber. Le monde les a repris, quelque part, l'amour du monde. Et ils se sont laissés grignoter, puis ils ont laissé tomber. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est tout. Ils ont besoin de se souvenir que sans Christ, il n'y a aucune espérance. Sans Christ, on est sans espérance et sans Dieu. On est tout seul. On est vide. Mais avec Christ, on est dans la joie. Il y avait parmi ces Israélites dans le désert, il y avait ceux qui avaient la foi. Il y avait Moïse, il y avait Josué, il y avait Caleb et d'autres encore. Qui disent, allez, on y va. Le Seigneur nous devance avec la nuée et le Seigneur va nous conduire dans la terre promise. Ils avaient la foi, ils avaient la joie. Caleb, à 82 ans, il était encore à fond pour conquérir des villes et pour avancer avec le Seigneur. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on se souvient? Il y a cette histoire touchante au Brésil, dans un petit village de la banlieue de Rio. Une maman qui s'appelait Maria, qui était seule avec ses enfants, et sa fille qui était adolescente, qui s'appelait Christina. Un moment, elle en a eu assez de vivre dans la pauvreté. Chaque fois qu'ils allaient faire des courses à Rio, dans la grande ville, elle disait, elle voyait toutes les lumières, elle voyait la fête, la musique. Elle s'est dit, c'est ça là, le bonheur, c'est là la vraie vie. Moi, je suis là à me morfondre, on a tout juste assez à manger avec maman. Il n'y a pas de papa, il n'y a rien. C'est la pauvreté, on est sale, on n'a rien. Et elle rêvait d'aller à la grande ville, alors un jour, elle a fugué. Elle a quitté la maison, elle n'est pas rentrée. Sa mère, très vite, s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Elle n'en a pas parlé à la police parce qu'elle ne comptait pas trop sur leur aide. Alors, elle a décidé de faire quelque chose. Elle est allée prendre des photos dans une sorte de photomaton, des photos d'elle-même. Donc, elle a fait deux douzaines de photos d'elle-même, des portraits. Et derrière chaque photo, elle a mis un petit mot. Et elle est partie à la ville. Elle arrive dans la grande ville de Rio et là, elle va dans les quartiers plutôt malfamés, dans les hôtels un peu miteux, dans les cafés, des quartiers louches, même dans les trucs de striptease ou de prostitution. Et partout où elle passe, elle colle sa photo, là où elle peut, visible. Alors vous me dites, mais pourquoi elle a fait ça? Et puis quand elle n'avait plus de photos et plus d'argent, elle a dû rentrer chez elle dans son village. Elle est rentrée et elle a prié pour sa fille. Et sa fille, elle a vécu quelques semaines et des semaines de cauchemar. Elle, qui pensait être au paradis, elle a très vite déchanté. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle a été abordée par des gens peu recommandables. Elle avait pris un peu d'argent. Elle n'avait très vite plus d'argent. Elle n'avait plus rien à manger. Et elle était au bord de se prostituer pour avoir à manger. Alors qu'elle était dans un petit hôtel, le matin, elle descend. Et qu'est-ce qu'elle voit sur le panneau? Une photo qu'elle reconnaît immédiatement. Mais c'est pas possible, c'est pas la photo de maman. Elle s'approche, mais si. Elle prend la photo et elle regarde le petit mot derrière. Petit mot qui disait, Quoi que tu aies fait, quoi que tu sois devenu, ça n'a pas d'importance. Reviens à la maison. » Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est revenue à la maison avec la photo. Pardon. Et cette maman, hein, qui est tellement touchante, cette fille aussi, c'est un peu Dieu avec nous. Hein. Dieu, il a envoyé son fils, qui est l'image, hein, qui est la photo de Dieu. Christ, c'est la photo de Dieu, si on peut dire, hein, dans un langage moderne. Il est l'image du Dieu invisible. Christ a fait des disciples qui sont des petits Christ normalement. Hein. Et il y a la photo de Dieu partout sur la terre et Dieu dit « Je suis là, je t'aime. Quoi que tu aies fait, quoi que tu sois devenu, viens à la maison. Viens à la maison. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut revenir à la maison? Comme le fils prodigue ou la fille prodigue. Vous avez essayé des choses, croyant trouver le bonheur et puis vous vous êtes lamentablement planté. Vous avez fait des choses même que vous regrettez. Mais le Seigneur est toujours là et il vous appelle toujours. Il est fidèle, il est comme votre mère. Il dit, viens à la maison, quoi que tu aies fait. Le cantique dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Seigneur, je viens. Et on va le chanter pour terminer. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de revenir au Seigneur, profitez de ce cantique pour le faire. On va chanter deux strophes de « Tel que je suis ».